L'EM, l'émission, l'émission, sur Transistor, creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui vous fait entendre le Finistère et qui vous promène un peu dehors aussi. Ça tombe bien, le temps s'y prête, on va retrouver la Maison de l'agriculture bio du Finistère à cette occasion. La MAB qui s'adresse surtout aux professionnels, mais aussi aux vous et moi qui pratiquent le jardinage amateur, ce sera le sujet de cette émission. Celui qui est chargé de mission jardinage sans pesticides auprès des particuliers, mais aussi des collectivités, c'est Charlie Rio. Bonjour Charlie.
Salut.
Alors, la Maison de la Bio et le groupement des agriculteurs bio qui sont liés tenaient leur assemblée générale il y a peu de temps. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'agriculture bio, alors en Finistère et puis même au-delà?
Donc effectivement, on a eu notre assemblée générale commune entre la Maison de la Bio et le groupement des producteurs bio, il n'y a pas très longtemps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'événement en commun, donc on est très contents. On avait 120 personnes à l'AG.
Ouais, parce qu'il y avait plus que l'Assemblée Générale, d'ailleurs, hein, il y avait une conférence après.
Alors, autour de l'Assemblée Générale, on a créé un événement pour le grand public, pour le coup, où on a invité Inès Leroux et Léandre Mandard pour venir parler du remembrement et de l'histoire du remembrement. Donc,
c'est... Le remembrement, c'est quand on a réduit, augmenté les tailles des champs en Bretagne. C'était dans les années 50 à 70 à peu près qu'on a fait ça. On a complètement restructuré le paysage agricole breton pour faire des grandes parcelles et changer l'agriculture,
c'est
le
ça.
Visage.
Voilà. C'est ça. Et pouvoir faire rentrer les tracteurs dans les champs notamment.
Oui, notamment.
Donc nous, on était très contents d'avoir autant de personnes à l'Assemblée Générale parce que la bio, y a des petits... Il y a eu des petits avis de tempête ces derniers temps. Donc...
Elle a connu des chocs, on va dire.
Donc il y a eu la tempête physique Ciarán avec des fermes encore qui sont sous l'effet, hein, où les serres ne sont pas remontées et tout ça.
Beaucoup de serres par terre, oui.
Et puis en post-Covid, on a eu aussi une baisse de la consommation bio.
Ça remonte un peu, là, paraît-il, en tout cas dans les magasins spécialisés.
On a un retour de la consommation bio, effectivement, dans les magasins spécialisés, mais aussi de manière plus générique. Il y a une meilleure image de l'agriculture bio et notamment un lien qui est fait assez fortement entre l'alimentation bio et santé. Donc on a un retour de la consommation bio. Donc on est plutôt content parce que les perspectives politiques ne sont pas vraiment en notre faveur en ce moment.
Pour l'instant, on ne peut pas dire
du
que...
Coup, voilà. Du coup, voilà, on est plutôt content, on est toujours en progression. Malgré les différentes tempêtes qu'on peut connaître.
Il n'y a pas eu de déconversion des gens, des agriculteurs qui étaient en bio, qui sont repassés au conventionnel parce qu'ils n'arrivaient pas à se payer, non?
Si, il y a un phénomène de déconversion, mais on est quand même sur du positif en nombre d'évolutions de fermes bio. Il y a plus d'installations.
Dans le Finistère?
Dans le Finistère, ouais. Oui.
Il y en a combien, on sait
Au total, on est à plus 40 fermes en 2024. Bon.
Qui adhèrent pas toutes peut-être à la Maison de l'agriculture bio aussi, toujours?
Non, pas toujours, non. Non, non, on force pas les gens à adhérer.
On leur met pas le couteau sous la gorge. Non. Bon, ça peut aider quand même, hein, j'imagine. C'est un réseau quand même aussi, hein, la Maison de l'agriculture bio et le groupement des agriculteurs bio. Et donc, parfois, la MAB s'adresse, je le disais, aux gens normaux. Non, aux gens qui essayent de juste faire pousser les pommes de terre dans leur jardin. Et on va peut-être parler de ça, du jardin, puisque c'est très concret, puisqu'il fait beau, puisque ça y est, là, c'est la saison qui recommence, n'est-ce pas?
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus urgent à faire? Qu'est-ce qui devrait déjà avoir été fait au jardin?
De manière générale, le plus urgent à faire, c'est de ne rien faire.
Bon.
Déjà, pour commencer, et de prendre le temps d'observer. Faut pas forcément se hâter, faut vraiment prendre le temps. C'est quelque chose à apprendre au jardin, c'est la patience. Quelque chose qui manque souvent aux jardiniers.
À tout le monde, je crois.
Jusqu'il y a peu de temps, on avait encore des nuits froides. On avait des gelées matinales, donc le sol ne se réchauffait pas. Et ça sert à rien de faire des plantations et des semis dans un sol qui est froid, parce que ça va pas germer. Du coup, il vaut mieux attendre. Là, on a les nuits qui commencent à se réchauffer. Et du coup, on va pouvoir commencer à jardiner.
C'est quoi la température? Il ne faut pas qu'il gèle, c'est ça? Il faut qu'il fasse des températures positives?
Y a des plantes dont le feuillage est sensible au gel. Donc s'il y a des gelées, il y a des plantes qui fragiles qui meurent. Et après, il y a des plantes qui ont un besoin de température pour germer. Et c'est la température du sol. Donc certaines, ça va germer à 8 degrés et d'autres à 15. Mais du coup, on ne peut pas tout mettre en même temps.
Mais si on a mis du paillage, ça peut favoriser éventuellement, quoi. Ça peut
réchauffer le sol. Ah ouais. Parce que ça a un rôle d'isolant, donc du coup, ça limite le refroidissement du sol, mais ça limite aussi son réchauffement. D'accord. Donc du coup, arrivé à cette période-ci, si on a mis du paillage, eh ben, on peut se permettre de le retirer. Surtout si on est sur une période de beaux jours, pour permettre au sol de se réchauffer.
Ah oui.
Et la deuxième chose à faire maintenant, c'est de venir aérer le sol. Donc c'est des outils avec des outils à dents qui permettent d'aérer sans forcément retourner. Hein. De plus en plus, on parle de respecter les équilibres biologiques du sol. Et du coup, on va venir aérer le sol avec des outils à dents pour permettre à l'eau de bien circuler dedans, à l'air de rentrer dans le sol et au sol de se réchauffer.
Ouais, parce que si on retourne trop, en plus, on risque de nuire aux vers de terre et tout ça. Enfin,
ouais,
c'est
fait de la bouillie de vers de terre, ça, c'est pas terrible.
Pauvre bête. Donc, pas encore de semis, mais ça, si on peut faire des semis en intérieur quand même, j'imagine.
On peut faire des semis en extérieur. Hein. Je te dis de ne pas se hâter, oui. Mais on peut quand même faire des choses. Par exemple, il y a les petits pois, les fèves, les oignons, les échalotes qu'on peut mettre en extérieur dès maintenant. Et puis bientôt, dès le mois d'avril, donc d'ici une dizaine de jours, on va pouvoir attaquer les semis comme la betterave, les épinards, des choses comme ça. Il sera temps, donc on arrive vraiment dans la période de jardinage.
Est-ce qu'on constate quand même que c'est de plus en plus tôt avec le changement climatique? C'est encore trop tôt peut-être pour...
C'est dur à dire parce qu'en fait, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Et du coup, on a il y a des perturbations, ça on peut dire qu'il y a des perturbations, mais maintenant, est-ce que la précocité est là? C'est difficile à dire.
Oui. Puis bon, parfois il fait très très beau, comme pendant le confinement, puis après il se met à pleuvoir pendant 2 ans. C'est le Finistère, sans doute. Alors au jardin, il y a des animaux qu'on aime bien, des végétaux qu'on aime bien aussi, mais là je voudrais juste qu'on se concentre sur les animaux, ce qu'on appelle les auxiliaires du jardin. C'est quoi les auxiliaires du jardin, par exemple?
C'est la majorité des petites bêtes qu'on va avoir dans le jardin. Et la plupart du temps, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas à quoi ça sert. Mais la plupart vont avoir vont aider le jardinier, la jardinière, dans la pratique de jardinage. Donc, le premier auquel on peut penser, ce sont les vers de terre.
On en a parlé d'ailleurs.
Qui viennent aérer le sol, qui viennent enfouir la matière organique, donc qui permettent d'enrichir le sol, de l'aérer, de permettre à l'eau de mieux circuler. Et après, il y en a plein d'autres qui sont intéressants. Ça va être, par exemple, les coccinelles.
C'est pas trop tôt, là, un peu, pour les coccinelles? Elles vont pas tarder.
Ouais. C'est un peu tôt. Elles sont encore en train de dormir dans leurs abris, tranquillement. Et du coup, il y en a d'autres qui vont commencer à apparaître. Ça va être les premiers, par exemple, qui sont des prédateurs de pucerons. Ça va être les cirfes.
Des fausses guêpes, c'est ça? Une mouche
qui ressemble à une guêpe et qui vole en faisant du surplace.
Et on va les voir bientôt.
Ouais, déjà. On commence à sortir.
Ils sont petites. Hein.
Ouais. Ouais, y a des petites et des moyennes. Ah bon, il y en a plein de différentes.
Et comment on peut favoriser les cirfes?
Tout simplement en laissant des espaces de pelouse où on va laisser les fleurs sauvages dedans. Et ça veut dire que quand on va commencer à tondre la pelouse, on va laisser des endroits avec des fleurs. Il ne faut pas tout tondre. Parce que les cirfes, au début, ils viennent se nourrir des fleurs sauvages. Et après, ils vont manger des pucerons. Et en fait, ce sont les larves qui mangent les pucerons, mais les adultes, ils se nourrissent que de fleurs sauvages. Du coup, des petits carrés de pelouse où on laisse les fleurs, les pissenlits, mais aussi il y a plein d'autres. Et du coup, apprendre à ne pas tout tondre, et pourquoi pas laisser 1 mètre carré pour la biodiversité. Puis si on a un jardin un peu plus grand, 2, 3, 10 mètres carrés, ou 100 mètres carrés, ou juste ne pas tondre la pelouse.
Aussi.
Bon,
on reparlera des déchets, entre guillemets, du jardin, mais voilà, les tondes de pelouse, finalement, ça devient un problème. Bon, est-ce qu'on peut ne pas tondre la pelouse, sauf si on a l'intention de jouer au foot sur sa pelouse, quoi, en fait?
Alors oui, pour le foot, c'est mieux de tondre, effectivement, hein. Sinon, ça fait des histoires. Mais on a une injonction jardinière à tondre la pelouse qui est totalement infondée. Il n'y a pas besoin de tondre la pelouse, il y a besoin de peut-être à la limite faire des cheminements pour avoir les pieds au sec, mais on pourrait très bien laisser l'herbe pousser, la couper une fois dans l'année et passer la tondeuse juste pour faire des chemins et se promener dans le jardin. Et là, on aurait l'apparition de nouvelles fleurs sauvages qui seraient très jolies avec des couleurs différentes, des formes différentes. On aurait l'apparition de plus de papillons. Plus de petites abeilles solitaires, on aurait...
Les papillons, c'est des pollinisateurs aussi, faut le rappeler.
Oui, ils font partie de la grande famille des pollinisateurs, effectivement.
Permettent aux plantes donc de se reproduire, bah, beaucoup de plantes ne se reproduire.
Et du coup, on aurait vraiment une action concrète sur la biodiversité. On aurait aussi la réapparition des sauterelles.
Ah oui, parce qu'elles ont disparu ?
Bah, il y en a de moins en moins,
ah oui.
En fait. Et parce que la tondeuse, ça détruit tout, quoi. La lame de la tondeuse, elle détruit tout. À son passage, il n'y a rien qui...
Et c'est bien d'avoir des sauterelles pour le jardin ? Indépendamment du côté champêtre et sympa.
Ça renforce ce qu'on appelle les chaînes trophiques, c'est les chaînes d'alimentation, le petit poisson qui est mangé par le moyen, qui est mangé par le grand. Et du coup, plus on a d'espèces différentes, plus on va avoir plus ça va renforcer la biodiversité du jardin. Et donc c'est bénéfique, parce que plus on a de biodiversité, moins on a de problèmes. Parce qu'on a une régulation qui se fait des ravageurs. C'est donnant-donnant pour le coup.
Ouais.
Donc on appelle ça biodiversité fonctionnelle. Et aujourd'hui, par exemple, en agriculture, on apprend à replanter des haies avec certaines espèces qui vont favoriser la présence d'insectes favoriser les auxiliaires qui vont venir manger les ravageurs des cultures et plus avoir de traitement à faire sur ces espaces-là.
Qu'est-ce qu'on peut voir dans son jardin comme animaux en ce moment si on a bien préservé la biodiversité ?
Par exemple, on peut voir le hérisson ressortir.
Ah oui, déjà.
Ah ouais, ouais.
Qui mange des limaces, le hérisson.
C'est un mangeur de limaces, ouais, de vers, de limaces, de tout ça. C'est un bon nettoyeur de limaces, ouais, effectivement.
Mais le hérisson n'est là que s'il peut se promener, en fait. C'est ça, s'il y a des jardins côte à côte, s'il n'y a pas trop de route pour, où il se fait écraser. C'est ça un peu le...
Bah, la route, c'est un problème, parce qu'il y a beaucoup de routes quand même. Hein. Mais effectivement, le hérisson, alors notamment le mâle, il a un territoire qui fait plusieurs kilomètres carrés, donc il va faire plusieurs kilomètres. Du coup, il faut avoir ce qu'on appelle la trame verte, la trame écologique, du corridor écologique. C'est des espaces où il puisse circuler sans être trop en danger, quoi. Donc souvent, il va suivre les talus, il va suivre les haies pour pas être complètement exposé aux prédateurs potentiels. Du coup, c'est ça. Et puis, il y a aussi qu'il faut qu'il puisse traverser les jardins. Donc, il faut qu'il puisse rentrer dedans et ressortir. Et des fois, quand on a des jardins avec des palissades, des choses comme ça, ça passe pas, quoi.
Mm-hmm.
Et du coup, de plus en plus, on préconise aux gens de faire des ouvertures dans les murets, dans les palissades, des petits passages à hérissons. Et du coup, comme ça, ils passent, ils circulent.
Il y a des villes qui ont des vrais programmes aussi de déplacement des hérissons. Parce que c'est vraiment une espèce qui commence à être menacée, hein, le hérisson.
Oui, c'est reconnu aujourd'hui comme une espèce menacée, effectivement.
Est-ce qu'on peut voir des amphibiens dans son jardin? Et lesquels?
Eh ben, très bonne question. on peut voir des crapauds, ils commencent à sortir là. Bon, en fait, le fait que les nuits soient moins fraîches, on va avoir beaucoup d'espèces à sortir. On va avoir les salamandres aussi à sortir, les tritons. Et on va pouvoir les voir la nuit, principalement, qui se déplacent. Et après, ils vont chercher des points d'eau pour la reproduction. Et du coup, si on veut favoriser leur présence, c'est intéressant d'avoir un point d'eau dans le jardin.
Ça, il faut avoir la place, quoi.
Pas forcément, ça peut être un petit point d'eau, c'est pas forcément un étang, quoi. On parle de mare, ça peut être quasi un demi-mètre carré. Il y a juste une histoire de profondeur, un peu, pour que...
Il faut des pentes douces, quand même, aussi.
Alors, il faut des pentes douces, effectivement, pour que les animaux puissent monter et ressortir, mais il faut aussi de la profondeur pour avoir une inertie thermique au niveau de l'eau et pas avoir trop de moustiques.
Ah oui, il y a ça aussi.
Une autre problématique, ça aussi. Ouais. Des tout petits points d'eau, comme des abreuvoirs à oiseaux, des choses comme ça, qui ne sont pas profonds. C'est très intéressant dans le jardin, mais il faut changer l'eau régulièrement. Alors qu'on peut installer des espaces avec de l'eau qui sont un peu plus profonds et où ça va se réchauffer moins vite et où les moustiques vont moins s'installer. Et si on ajoute des plantes dans ces petits espaces d'eau, on va avoir plein de bestioles qui vont venir et qui vont se nourrir des moustiques. Et comme ça, on a l'effet positif sans l'effet négatif.
Parce que les moustiques, c'est plutôt une eau tiède qui leur va, c'est
ouais,
ça
ouais, ils aiment bien la chaleur. Ouais.
Ah ouais, d'accord.
Plus il va faire chaud, plus il va y avoir de moustiques. Et plus l'eau va être chaude, plus ils vont se reproduire facilement. Et du coup, le pire, c'est les petites coupelles.
Ah bah oui, il ne faut jamais laisser ces coupelles pleines dans son jardin.
C'est ça.
Les mettre à l'envers,
voilà.
Absolument. Et on peut aussi avoir des chauves-souris pour manger les moustiques, mais bon, c'est peut-être pas gagné dans tous les jardins. Il faut un minimum pour avoir des chauves-souris dans son jardin, non ?
Oui, en fait, il faut qu'ils aient des abris pour passer la nuit, pour passer différentes saisons. Ils ont des cycles saisonniers assez particuliers. Mais en fait, c'est très facile d'installer des abris à chauves-souris. C'est une boîte en bois avec une ouverture par en dessous.
En hauteur quand même, non ?
Et c'est conseillé de mettre à des hauteurs différentes. Donc allant de 2 mètres jusqu'à 4 mètres.
Ah oui.
Mais si on peut mettre 2, 3, 4 mètres, c'est intéressant. Donc l'idée, c'est d'en avoir plusieurs. Et des choses qui sont intéressantes aussi pour l'accueil des chauves-souris, c'est de laisser du lierre sur les arbres. Ça, les jardiniers, en général, ils n'aiment pas trop, parce qu'ils ont peur que le lierre tue l'arbre.
Ce qui est totalement faux.
Ce qui est totalement faux. Comme l'ONF s'en est rendu compte, le lierre va pousser autour de l'arbre. Il faut éviter qu'il prenne trop de place et d'avoir des sections trop grosses. Mais il ne va pas pomper la sève de l'arbre. Et c'est un formidable abri en termes de biodiversité. Et pour avoir des coccinelles, par exemple, ou des chauves-souris, elles peuvent se réfugier dessous pour passer la nuit ou pour passer l'hiver. Donc
alors,
c'est super intéressant.
Bah en effet. Alors on va parler peut-être un peu de ceux qu'on ne veut pas au jardin, enfin, qu'on veut moins au jardin, n'est-ce pas ? Il y a des végétaux, il y a ce qu'on appelle les mauvaises herbes, qu'on ne doit plus appeler les mauvaises herbes. Est-ce que c'est vraiment qu'est-ce qu'il faut désherber s'il faut désherber ? Est-ce que ça justifie de désherber ? À part pour des raisons esthétiques.
Bah il y a quand même une notion à avoir en tête, c'est que les plantes sauvages poussent plus vite que les plantes cultivées. Du coup, si on fait un semis de fleurs et qu'on n'intervient pas, bah, on n'aura que des herbes sauvages qui vont pousser et qui seront moins esthétiques. On peut prendre le temps aussi de regarder les plantes sauvages, vraiment utiliser le jardin comme un espace de contemplation, de méditation. Mais souvent, on se fixe des objectifs et puis si on a pris le temps de semer telle fleur, on a envie de la voir sortir. Du coup, on est obligé de réguler un petit peu les plantes sauvages dans les parterres. Pour ça, il y a différentes techniques, hein, qui sont techniques du faux semis, c'est-à-dire qu'on prépare le sol au printemps, on laisse 15 jours, 3 semaines, les plantes sauvages commencent à germer, on vient gratter un peu le sol, et après on fait son semis.
On gratte juste, quoi.
On gratte juste, ouais. Très, très superficiellement. On détruit les plantes sauvages qui poussent, et après on peut semer ses graines. Donc il y a moins de concurrence.
Ouais, c'est pas la peine pour les pissenlits d'essayer de s'attaquer aux racines. Enfin, au contraire, c'est même une erreur, je crois.
Après, sur la pelouse, souvent on a envie d'enlever les petites plantes à rosette, les pissenlits, les pâquerettes, on sait pas trop, elles poussent pas trop, du coup ça passe à peu près, mais les pissenlits prennent un peu plus de place, donc les gens aiment pas. Mais en termes de biodiversité, en termes de bénéfices pour le jardin, il vaut mieux les laisser. Déjà, on passe moins de temps à les enlever. En général, quand on enlève un pissenlit, on crée un espace de terre à nu, donc il y en a 10 autres qui vont se ressemer.
C'est ça, oui.
Du coup, c'est une fuite en avant. Et puis, toutes les bestioles utiles du jardin, tous les insectes utiles du jardin, à un moment, ils vont se nourrir de nectar de fleurs, dont les coccinelles, par exemple. Et donc, il vaut mieux en laisser. Et on n'a jamais vu un jardin se faire envahir de pissenlits. Puisque le pissenlit, il a une saisonnalité, il va pousser au printemps, et puis après, c'est la pelouse qui va prendre le dessus. Du coup, ça ne pose pas de problème en termes de...
On enlève juste les fleurs de pissenlit dans ces plates-bandes, quoi. Enfin, c'est ça, en fait, pour pas trop de concurrence, quoi.
Sur les plates-bandes, là où on va semer des fleurs, là, on peut les enlever, effectivement, pour éviter cette concurrence. Mais sur la pelouse, ça ne pose pas de problème.
Des animaux qu'on n'aime pas, quand même, quand on jardine, il faut bien le dire, les limaces. Comment faire en sorte de réduire leurs dégâts, de limiter leurs dégâts plutôt ?
En fait, c'est pas très compliqué. Il faut qu'il y ait moins de limaces pour limiter les dégâts. Donc, moins de limaces, c'est passer par favoriser les prédateurs naturels. Donc là, on a parlé du hérisson, mais il y en a plein d'autres. Il y a le crapaud, l'orveil, il y a des petits scarabées qui mangent les limaces. Les
berluzans,
ils mangent des limaces aussi. Donc, il y en a plein. Donc, c'est toutes les notions autour de la biodiversité. Et après, il y a un truc qui est important dans les limaces, c'est intervenir avant. En fait, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on plante les végétaux et on va s'occuper de la question de la limace. Donc la limace, la nuit, quand elle sort, bah, elle va manger le végétal et puis après, elle va tomber dans le piège qu'on lui a tendu. Mais le végétal sera mangé. Du coup, ça ne marche pas. Et en fait, ce qu'il faut, c'est intervenir avant d'implanter le végétal. Par exemple, on parle beaucoup de piège à bière. Qui marche assez bien si c'est bien fait, mais il faut le mettre avant d'installer les salades, par exemple, ou avant d'installer ces plantations de fleurs.
Oui.
On met quelques jours avant, les limaces vont aller dans la bière, et après, on peut installer son végétal. Et là, c'est beaucoup plus facile, pour le coup. Et le fait de retirer en ce moment les paillages, par exemple, ça va permettre au sol de se réchauffer, mais ça va permettre aussi aux œufs de limaces qui sont sous le paillage de sécher. Et ça limite énormément la population de limaces. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc juste le geste de retirer le paillage, venir gratter un peu le sol superficiellement quand on a du soleil, eh ben, ça limite la quantité de limaces.
Si en plus il y a un coup de froid par-dessus, ça va plus mal aussi, non ?
Oui, bah là, on commence à être dans la période où on ne va plus trop aimer le froid, pour le coup.
Ouais, c'est sûr.
Toute l'ambiguïté.
Et oui, c'est toujours de l'équilibre, hein, le jardin. On ne le répétera jamais assez. Alors, parmi les aménagements du jardin, là, on a déjà évoqué un peu la question de ce qu'on appelle les déchets, mais qu'on ne devrait plus appeler des déchets au jardin, n'est-ce pas ? Ce qui peuvent être des ressources. Enfin, la tonte de gazon, comment est-ce qu'on peut la réutiliser ? Ou en faire profiter ses voisins, par exemple ?
Bah oui, il y a, effectivement, dans la question du jardinage, on sait que maintenant c'est très bien documenté, on sait que les végétaux poussent en association avec des bactéries et des champignons au niveau des racines, et pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait de la matière organique dans les sols. De plus en plus avant, on mettait des fumiers dans les sols, maintenant de plus en plus, il est proposé de mettre des engrais, et les engrais, ça ne favorise pas la présence de matière organique, ou pas beaucoup. Du coup, les plantes poussent moins bien et en plus mauvaise santé. En plus, le fait d'avoir de la matière organique dans les sols sont plus légers, ils retiennent mieux l'eau, l'eau circule mieux au niveau du sol, ça se réchauffe plus vite, c'est moins tassé. Bref, il y a énormément d'avantages. On a des plantes qui poussent beaucoup mieux. Donc les objectifs à moyen terme, ils sont quand même de remettre la matière organique dans les sols. Aujourd'hui, les pratiques de jardinage, elles sont beaucoup « je coupe, je coupe, je coupe et j'enlève ». Je coupe la pelouse, je coupe la haie, je coupe les tiges sèches et j'enlève. Alors qu'en fait, il faut qu'elles reviennent au sol. Et les solutions les plus simples, c'est simplement soit de les composter et de remettre ensuite au sol, ou soit de les poser directement sur le sol.
Même un peu broyé quand même ou
un peu broyé avec la tondeuse, tout simplement.
Enfin, pour la... oui.
Les petites branches, les petites tailles de haie et tout, ça se broie à la tondeuse sans problème. Les tontes de pelouse, on peut poser en couches fines sur le sol. Et après, c'est les vers de terre qui vont réincorporer tout ça au sol.
Couche fine, c'est quoi ? C'est
2-3 cm.
Ah ouais, ok, assez fin, ouais. En effet.
Assez fin, mais à la tonte suivante, on va reposer une couche. Il ne faut pas mettre 10 cm de tonte de pelouse, par exemple.
Ah ouais, donc il faut le faire régulièrement, en fait.
Ouais. Et ça, c'est un geste à prendre. Je tonds ma pelouse et puis je viens déposer sur les parterres. Et puis si j'ai trop, bah, je laisse sur place sur la pelouse aussi.
Oui, le mulching, le fameux.
Le mulching, l'herbicyclage. Ouais.
Herbicyclage, ah voilà, joli mot français que je ne connaissais pas. Et d'autres déchets qui sont plus gros, des grosses branches, enfin, qu'est-ce qu'on peut en faire ? On peut en faire quelque chose hein, au jardin, je crois, des Alors, aménagements.
Effectivement, on a les tontes de pelouse, c'est assez facile à gérer, on coupe, on met sur les parterres, où on fait de l'herbicyclage. Les petites tailles de haies, on broie à la tondeuse, donc dès que c'est la taille d'un petit doigt, hein, on peut broyer à la tondeuse, il n'y a pas de problème. Et après, les branches un peu plus grosses, il y a la question comment on gère ça. Donc les gens, ils veulent des broyeurs, des gros broyeurs.
Mais enfin, c'est tout un bide, ça.
C'est compliqué, ça coûte cher, ça peut être dangereux aussi. Et en fait, de plus en plus, on commence à parler d'une technique là, qui arrive d'Angleterre et qui est très, très intéressante, qui sont les haies sèches. Et en fait, on fait deux rangées de poteaux en quinconce et toutes les branches, on vient les mettre entre ces deux rangées. Et on peut monter, on peut faire des limites dans le jardin. Alors ça peut être une petite zone pour abriter le composteur, par exemple, entourer le composteur, ça peut être assez sympa. Une petite zone pour ranger les poubelles, par exemple. Et ça peut être des petites délimitations aussi dans le jardin pour créer des petites alcôves, des petits espaces. Et puis pour les plus ambitieux, on peut carrément créer de la haie séparative à 2 mètres de hauteur avec des branches mortes.
Ça prendra un peu de temps, quoi.
Ça prend un peu de temps, mais au moins, avec le temps, ça se décompose par en dessous. Donc, au fur et à mesure des années, on rajoute par au-dessus en entretenant comme ça. On n'a plus à les emmener ailleurs.
Et puis, il y aura des habitants, en plus.
Et en termes de biodiversité, c'est excellent parce qu'on a plein de... En fait, il manque de bois mort, déjà, dans les jardins. Il y a plein d'animaux qui vivent dans le bois mort, et souvent on enlève le bois mort. Du coup, ça crée un déséquilibre. Après, les oiseaux, ils ont besoin de zones un peu abritées pour nicher. Dans une haie sèche, c'est intéressant. Et puis, ils ne vont pas être gênés par le taille-haie.
Non.
Parce qu'en fait,
on la taille pas, la haie sèche. Elle se taille toute
c'est
seule.
C'est ça, on la taille pas. Parce qu'aujourd'hui, on préconise de ne pas tailler la haie entre le 15 mars et le 15 août. Mais dès qu'il fait beau dans les campagnes, on entend bien que, comme il n'y a pas d'interdiction
là-dessus,
ça se fait
quand même. Oui, ce n'est pas une interdiction formelle.
C'est pas une interdiction, c'est une préconisation.
Oui, parce qu'il y a normalement des oiseaux qui commencent à nicher.
Mais oui.
Mais oui.
Mais oui.
Donc la haie sèche, c'est vrai que c'est pas mal. Faut un peu d'espace, quoi. Faut pas avoir
non, on
trop
peut faire
petit
des
jardin.
Petites haies sèches.
Mais
hein.
on peut, oui, c'est vrai, on peut faire de toutes les tailles. Et puis c'est vrai que mine de rien, le temps qu'elle soit remplie, il se passe du temps. Donc en fait, elle peut être un peu perpétuelle, cette haie sèche.
Oui, ouais. Complètement.
Bon, alors juste, on a 20 secondes pour parler de la loi sur les biodéchets. C'est peut-être un petit peu court, mais bon, on en est où de cette loi sur les biodéchets ?
Du coup, ça se met en place dans les collectivités. Pour rappel, les collectivités doivent proposer aux habitants une solution de gestion des biodéchets, des éplucheurs de légumes et des restes de repas de la maison. Donc les grandes solutions, c'est le compostage ou la méthanisation. Nous, dans le jardinage au naturel, on préfère le compostage. Et on préfère le retour des matières organiques au sol. Ça se met en place tranquillement avec soit du ramassage par la collectivité, soit des composteurs partagés. C'est de la gestion de projet. Hein. C'est, du coup, il faut aussi former les gens, informer, former, accompagner. Du coup, ça met un peu de temps. Hein. L'objectif d'être mis en place au 1er janvier 2024, il n'est pas atteint du tout.
Ah oui, ça...
Et ça se met en place sur les territoires petit à petit. Ça va pas à pas, tout doucement.
Voilà, faut être patient, hein, comme Charline nous l'a dit. Merci beaucoup. On retrouvera la Maison de la Bio très, très bientôt, sans doute. Et puis vous pouvez réécouter les autres émissions sur le site internet de la radio.